écouter les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, merci de suivre le journal de ce 9 septembre 2021. Les deux journalistes nigériens Moussa Aksar et Samira Sabou, poursuivis par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, étaient ce matin devant le procureur de la République à Niamey à suivre leur avocat dans ce journal. Les directeurs des écoles primaires du département de Dogondouchi en formation sur la remédiation et la COVID, les précisions dans un instant. À suivre en partie magazine, un fact-checking sur les rumeurs liées à la COVID-19 au Niger. Hawa Mamana au micro, ils sont deux journalistes, Moussa Aksar et Samira Sabou, à comparaître ce matin devant le procureur de la République à Niamey. Cette comparution fait suite à une plainte déposée par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants contre les deux journalistes. Ahmed Maman, avocat des deux journalistes, explique l'affaire. Il est au micro de Faisal Boubacar.
Ce matin, Samira Sabou et Moussa Aksar, journalistes de profession, ont comparu devant le procureur de la République. Les deux journalistes ont partagé une publication faite par Global Initiative. Donc c'est par rapport à cela que Octris a porté plainte et que ce matin, ces deux journalistes ont comparu devant le procureur. Ils sont en liberté. Et personnellement, en tant qu'avocat, je suis surpris de cette procédure. Et de cette poursuite également, parce qu'au fond, quand vous regardez, il n'y a également aucune infraction qu'on pouvait retenir contre ces journalistes, parce qu'effectivement, ils ont exercé et ils ont fait leur travail de journaliste. Ils ont relayé des informations qui ont été publiées également. Ça n'a pas été fait dans l'intention de nuire. Ils ont prouvé leur bonne foi en publiant également le démenti apporté par Octris.
Niger, la rentrée scolaire 2021-2022 dans les lycées et écoles normales initialement prévue pour le 15 septembre 2021 a été reportée au 4 octobre prochain. Cette décision a été prise hier mercredi 8 septembre 2021 par arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Aucune raison officielle n'a été avancée pour expliquer ce report. À la veille de la rentrée scolaire, les directeurs des écoles primaires du département de Dogondouchi sont en formation sur la relance pédagogique et la COVID-19. L'objectif est de renforcer les capacités des responsables d'école sur les deux thèmes. Moudi Toudou, inspecteur chef de service à l'inspection communale de l'enseignement primaire d'Douchi 1, explique au micro de Abdelaziz Dayouma.
Ces deux thèmes en réalité, la relance pédagogique et la COVID-19. Les objectifs, c'est de renforcer la capacité de nos directeurs d'école sur les deux thèmes afin qu'ils les approprient et pour qu'ils puissent mieux encadrer leurs adjoints au niveau de l'élaboration des planifications hebdomadaires donc des classes. Notre attente, c'est de toucher l'ensemble donc de notre cible à travers donc nos directeurs d'école. Bien sûr, les enseignants vont à leur tour être sensibilisés parce que ils vont recevoir les briefings de la part donc de leurs directeurs d'école et seront sensibilisés. De facto, les élèves eux-mêmes seront sensibilisés parce que le contenu qu'on va leur dispenser, ça va prendre en compte la COVID-19 surtout. Parce que dans tous les cas, la relance pédagogique, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est les pratiques des classes qu'on connaît comme d'habitude.
La Croix-Rouge nigérienne organise pour deux jours de plusieurs un atelier de capitalisation du projet « Limiter la propagation de la pandémie de la COVID-19 et favoriser l'accès aux soins de santé primaire des populations dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale ». Dr Moussi Maïga Alassane, coordinateur national santé et nutrition de la Croix-Rouge nigérienne, dresse le bilan de la mise en œuvre de ce projet au micro de Farid Bourema.
Nous sommes allés au-delà de nos objectifs et de nos indicateurs fixés. Donc c'est très bien, en tout cas ça a été très positif. Premièrement par la collaboration avec le ministère de la Santé et l'implication des agents de santé à tous les niveaux. Donc du niveau national jusqu'au niveau décentralisé, donc ils se sont appropriés du projet. Il y a aussi l'implication aussi de la communauté, donc qui a joué un rôle très très important, surtout à travers l'implication des leaders communautaires. Donc ça aussi c'est très bien. Les organisations de la société civile villageoise dans la communication des risques et engagements communautaires. Justement, il y a cette partie de gestion des rumeurs. Ces volontaires-là ont été formés sur la gestion des rumeurs, notamment l'écoute, l'analyse, le traitement et la réponse. Donc, du coup, dans leur sensibilisation, ils ont pris en compte ces rumeurs-là. Ils ont essayé, en tout cas, de les traiter.
Hier après-midi, le consortium IFD Maxence Bondino va organiser la cérémonie de sélection des projets retenus dans le cadre de la compétition Collab Santé Mère et Enfant. L'objectif de cette compétition est de primer les meilleurs projets qui proposent des solutions d'amélioration de la santé maternelle. Trois projets ont été retenus par le jury. Borel Diop, représentante Maquessence Afrique, et Guillaume Favreau, représentant de l'Institut de recherche et de développement IRD, donnent plus de précisions au micro d'Olivier Assogbavi.
Conscient qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se développer de la manière dont on le fait, où on a besoin d'avoir une postérité, une durabilité dans nos économies, dans nos manières de fonctionner. J'ai envie de dire que le collab, c'est une suite logique dans toutes les activités de Maxence. On est convaincu que ce sont les citoyens, les jeunes qui peuvent changer l'Afrique, inventer une Afrique qui est différente, qui se développe autrement.
Il s'agit de soutenir les rapprochements science-société à travers la diffusion de l'information scientifique. Et ici, dans ce collab, il s'agit de rapprocher la recherche de la société à travers des actions concrètes, pluridisciplinaires, et voire interdisciplinaires, c'est-à-dire que toutes les disciplines travaillent ensemble.
Bientôt, un vaccin contre le paludisme verra le jour au Mali. L'annonce a été faite par le Programme national de lutte contre le paludisme au Mali. Cette nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie est le fruit d'une étude menée pendant 2 ans par le Centre de recherche et de formation sur le paludisme au Mali en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso. Les résultats de cette étude ont été présentés le lundi 6 septembre 2021 à Bamako. Notre confrère Moussa Malé Sissoko du studio Tamani au Mali pour plus de précisions.
Cette étude a été effectuée sur 6000 enfants âgés de 5 à 17 mois au Mali et au Burkina Faso entre 2017-2019. Professeur Alassane Diko est le chef de l'unité de recherche clinique de Bougouni et de Wolesebougou.
C'est un vaccin qui est fabriqué par un laboratoire qui s'appelle GSK. Plusieurs scientifiques de différents groupes hors de l'Afrique travaillent pour aider à évaluer ce vaccin et montrer si ce vaccin peut être un outil additionnel pour la lutte contre le paludisme. Donc nous avons évalué ce vaccin-là. Nous avons fait le travail en collaboration avec nos partenaires du Royaume-Uni, notamment l'École de santé publique de Londres. Et nous pensons que ça va révolutionner et ça va avoir un impact important dans la lutte contre le paludisme.
L'arrivée d'un vaccin contre le paludisme est une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie, déclare Dr Idrissa Cissé. Pour le coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme au Mali, des efforts devront être fournis par le gouvernement en vue de faciliter l'accès à ce vaccin.
C'est très difficile de dire à quand, mais ce qu'il y a dit, l'OMS est en train de travailler activement sur ce résultat. Maintenant, l'OMS va voir comment ces stratégies peuvent être affinées pour rendre disponibles. Et donc, quand ils vont définir les normes, nous allons travailler de manière à intégrer dans notre politique.
Les résultats de cette étude indiquent qu'au Mali, 73% des décès sont liés au paludisme.
Les dirigeants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue d'un sommet virtuel hier, ont décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de l'organisation après le coup d'État survenu dans ce pays dimanche dernier, rapporte le quotidien nigérien Le Sahel de ce jour. Par ailleurs, sur la transition au Mali, la CEDEAO recommande aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période afin de garantir la réussite du processus en cours. L'équipe masculine du Niger participant au championnat d'Afrique de volley-ball s'est ouverte le 7 septembre au Rwanda. S'est inclinée lors de sa première sortie face au Mali par 3-7-2. Pour sa deuxième sortie hier face à la République démocratique du Congo, elle a perdu encore 3-7-2. Ce matin, les Nigériens ont été battus par les Camerounais par 3-7-0. Parti magazine, depuis l'apparition du premier cas de la maladie à coronavirus au Niger en mars 2020, énormément de rumeurs et de fausses informations circulent et sèment le doute et la suspicion dans la compréhension de cette maladie. Dans ce magazine, les analyses d'experts nigériens sur ces rumeurs avec Ousmane Mamoudou.
Au Niger, cela fait maintenant plus d'une année que le premier cas de la maladie à coronavirus a été détecté. Depuis, le pays a enregistré plus de 5000 cas parmi lesquels 199 décès à la date du 7 septembre 2021. Les théories infondées sur l'origine de la pandémie continue de semer suspicion et doute dans la société nigérienne. Des personnes continuent à croire qu'il s'agit simplement d'un complot organisé par l'Occident pour diverses raisons. Elhaj Dagobi Abdoua, enseignant-chercheur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Niamey et membre du groupe d'experts de lutte contre la pandémie, revient sur les représentations populaires de cette maladie au Niger plus d'un an après l'identification du virus.
Certains estiment par exemple que c'est une maladie qui existait toujours, qui a toujours été connue sous la forme de rhumes saisonniers. Et beaucoup ont aussi estimé que c'est une maladie et business pour le gouvernement. Il veut faire des chiffres et pour obtenir de l'aide extérieure.
Des théories complotistes que rejette le commandant Boubé Abdou, médecin et directeur des services de santé et de l'action sociale au niveau de la garde nationale du Niger.
Le Covid-19 n'est pas une fabrication telle que certains esprits malsains sont en train de le véhiculer. Le Covid-19 est là, bel et bien là au Niger. Nous enregistrons très malheureusement des décès.
Du 14 janvier au 9 février 2021, 17 experts internationaux mandatés par l'Organisation mondiale de la santé et 17 experts chinois se sont rendus à Wuhan pour enquêter sur les origines de la COVID-19. Dans les conclusions publiées le 29 mars dernier, les enquêteurs ont estimé que ce virus a probablement été transmis à l'homme par un animal réservoir, la chauve-souris, via un autre animal intermédiaire encore non identifié. Les experts ont exclu l'hypothèse de la fuite du virus à partir d'un laboratoire scientifique basé à Wuhan. L'OMS n'a pas encore apporté une conclusion définitive, comme l'indique Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Nous allons lire le rapport et discuter, comprendre son contenu et voir quelles sont les prochaines étapes avec les États membres. Mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires et plus poussées, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent.
Et c'est la fin de ce journal. À suivre le forum sur les attentes des étudiants et des enseignants des universités publiques du Niger pour une bonne reprise des cours. Ce serait avec Michel Deji, mais en attendant, suivez le journal en tamashek. Très bonne réception.
Hey Issa! Tu vois comment cette deuxième vague de Covid a repris avec force? Honnêtement, cette maladie fait très peur à mon grand-père.
Alou, je peux te comprendre. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment de peur lors de la première vague de la maladie. Le virus était encore nouveau. Il est venu dans nos vies sans prévenir et a fait beaucoup de dégâts. Le sentiment de peur est normal.
Tu vois, non? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le comportement des gens. Ils négligent trop cette maladie. Malgré les alertes, malgré cette deuxième vague, je vois beaucoup de gens sortir sans masque. Du coup, mon grand-père, vu son âge avancé, préfère ne plus sortir. Je ne sais vraiment pas comment l'aider.
Écoute, Alou, je vais te donner le conseil qu'un docteur m'avait donné lors de la première vague. C'est vrai, cette maladie a fait peur à ses débuts. La vie continue et nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. C'est vrai, ton grand-père est âgé et faible. Il fait partie des personnes à risque. Le seul secret de cette maladie, c'est de respecter les gestes barrières. Mets ton masque et sors. Même si les autres ne prennent pas leurs précautions, toi, protège-toi et protège ton grand-père. C'est vrai, sortir sans protection, c'est un danger. Et c'est risqué. Mais rester à la maison et isolé en pensant se protéger de la maladie est plus dangereux pour la santé mentale. Autant sortir tout en se protégeant en respectant les gestes barrières et les recommandations du gouvernement.
Merci Issa pour ces conseils. Ne laissons pas la peur nous faire plus de mal. Il suffit juste de se protéger pour pouvoir vaincre la COVID-19.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.